France Inter.
Est en train de glisser vers la Tunisie. Il laisse encore un petit peu d'instabilité ce matin sur la Corse. Quelques nuages sur la Côte d'Azur et quelques flocons sur le Mercantour. Pas tout d'ailleurs, le ciel va s'éclaircir au fil de la journée avec encore une belle bande nuageuse autour de la Loire, alors que sur la moitié sud, le soleil va briller avec encore un petit peu de vent autour de la Méditerranée.
Et on a encore de petites gelées matinales.
Oui, c'est descendu à moins 2 à Brevannes, en Haute-Marne, comme dans les Vosges. Pas plus de 1 à Châteauroux, 3 à Lyon, 6 à Bayonne, mais 13 à Pomerigendy dans les Côtes d'Armor ou à Bastia. Alors, cet après-midi, ça va. On va assister à une nouvelle hausse pour repasser au-dessus des normales de saison avec 13 dans le nord à Saint-Amand-les-Eaux, 15 à Quimper. Vous aurez 17 à Rouen, 18 à Tarbes, 19 à Paris, comme à Besançon ou à Rennes. Comptez 21 à Nice et 23 à Narbonne, voire 24 à Gap. Et ça va continuer de grimper comme ça jusqu'à samedi.
Merci Marie-Pierre. 7h30, le journal. Avec Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous. C'en est peut-être bientôt fini de la crise de l'immobilier. Courtiers, agences et même promoteurs constatent un frémissement, un redémarrage de l'activité à la faveur de taux de crédit enfin moins élevés. Vous les entendrez. 1 milliard d'euros de dégâts, 50 000 personnes impliquées. Comment éviter à l'avenir des émeutes urbaines telles que la France les a connues l'an dernier? Les sénateurs font leurs propositions. La plus sensible concerne la suspension de certaines fonctionnalités sur les portables. Explication à suivre. Dans ce journal aussi, moins de comprimés dans les boîtes de tramadol pour éviter la dépendance. Et une série improbable à la télé entre kung-fu et lutte des classes.
Et puis les finances, les coupes budgétaires, la réforme de la fonction publique, autant de sujets qu'Alexandra Ben Saïd abordera avec son invité dans une vingtaine de minutes. Boris Vallot, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, invité de 7h50 sur Inter.
France Inter.
Alexis, beaucoup moins d'inflation depuis le début de l'année. À quand la baisse des taux d'intérêt?
La Banque Centrale Européenne est attendue aujourd'hui sur le sujet. Elle qui n'a cessé de relever ses taux directeurs depuis 2 ans maintenant. Mais le contexte a bien changé avec une inflation redescendue à 2,4% en zone euro. Tout à l'heure à Francfort, la BCE devrait temporiser encore un peu. Il faudra patienter quelques semaines, jusqu'en juin probablement, pour une première baisse. Décision très attendue en tout cas par le secteur immobilier en crise profonde et qui guette le redémarrage du crédit. Mais la sortie du tunnel ne semble plus très loin. Claire Chaudière, on perçoit déjà des signaux positifs.
Cela fait quelques semaines désormais que les courtiers en crédit immobilier ont discrètement retrouvé le sourire.
Au 31 mars, j'ai fait mon cabinet, le meilleur début d'année de ces 10 dernières années. On a tous fait un très bon, quasiment un premier trimestre. Ça y est, on y est, les gens reviennent.
Beaucoup de projets immobiliers, anciens ou nouveaux, qui se concrétisent, explique Bérangère Dubu de l'Union des courtiers, à la faveur d'une légère baisse des prix des logements parfois, mais les banques ont aussi anticipé l'assouplissement de la politique monétaire qui se profile, dit-elle. Elles sont même à l'affût des ménages.
On a quasiment perdu un point de taux entre fin décembre et à peu près le mois de mars. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu tous les représentants bancaires venir nous visiter, nous les courtiers, pour prendre les petits déjeuners, nous apporter les croissants, nous expliquer qu'ils avaient envie de travailler, envie de faire des dossiers.
Pas de déferlante, mais un frémissement certain, constate de son côté Pascal Boulanger de la Fédération des promoteurs immobiliers, même si la construction neuve n'est pas sortie de la tourmente.
On dirait qu'on a touché le fond et que ça se remet en route. J'étais tout à l'heure en ligne avec une grande patronne d'une banque régionale qui me dit, mais nous, on ne fait pas assez de crédits. On est en déficit par rapport à notre prévisionnel sur les crédits acquéreurs immobiliers. Ça prouve bien qu'elles veulent prêter.
Une machine qui redémarre, mais un niveau actuellement bien loin du pic de crédit immobilier atteint il y a 2 ans. Selon les derniers chiffres de la Banque de France, le montant des nouveaux emprunts accordés a été divisé par 3.
Oui, relance très très progressive donc. L'immobilier et le BTP restent d'ailleurs pour l'instant dans le rouge et plombent les derniers chiffres des défaillances d'entreprises en France. Plus de 17 000 procédures au premier trimestre, au plus haut depuis 9 ans, selon le cabinet spécialisé Altares.
Centre-ville de Bordeaux, hier soir, peu avant 20h.
Autour du très fréquenté miroir d'eau, au milieu des passants, un homme brandit un couteau. Bilan, un mort, un blessé grave. Dans cette attaque au motif encore flou, à ce stade, la piste terroriste n'est pas privilégiée. Les enquêteurs évoquent plutôt un différents qui auraient mal tourné. Les victimes sont de nationalité algérienne. Quant à l'assaillant, il a été tué quelques instants plus tard par la police. Le bilan colossal des émeutes urbaines de l'été dernier. C'est l'adjectif employé par les sénateurs qui viennent de rendre leur rapport sur les événements de fin juin après la mort de Naël à Nanterre. Au moins 1 milliard d'euros de dégâts selon les parlementaires. C'est 4 fois plus que le précédent de 2005. 25 propositions aussi dans ce rapport pour améliorer la réponse des pouvoirs publics. Emmanuel Leclerc, l'une des plus sensibles concerne la restriction de l'usage des téléphones portables.
Les forces de l'ordre se sont tellement fait déborder dans certaines situations que les sénateurs veulent empêcher à l'avenir des émeutiers d'avoir la possibilité de se regrouper très vite pour attaquer, quitte à brouiller le signal de la géolocalisation des téléphones portables pour se guider dans une zone, un quartier déterminé.
Il n'est pas question de couper le téléphone totalement, naturellement.
François-Noël Buffet est le rapporteur de cette enquête parlementaire.
De tout bloquer, l'ensemble des informations qui seraient dans un quartier ou dans une ville, c'est pas ça le sujet.
L'autre mesure que prône le rapporteur de cette mission sénatoriale d'information sur les émeutes, c'est d'empêcher la vente en ligne des mortiers d'artifice.
On s'est inspiré de l'exemple espagnol. Concentrer la vente des mortiers dans des magasins tout à fait classiques, agréés, avec des systèmes de déclaration. On se doute bien que certains essaieront de contourner les difficultés, mais tout de même, ça peut être un élément supplémentaire pour pouvoir éviter l'apport en masse de ces mortiers, dont je rappelle que lorsqu'il est utilisé en tir tendu, peut avoir un caractère létal, mortel.
François-Noël Buffet estime enfin nécessaire de ne plus jamais se retrouver avec des mairies attaquées sans personne pour les protéger, ce qui est arrivé, on le sait, à plusieurs reprises, d'où la nécessité de prévoir des schémas d'intervention entre police municipale, surtout quand elles ne sont pas armées, pas assez nombreuses, et les brigades d'intervention de la police nationale.
Dans l'Yonne, la mère d'Avallon en prison, Djamila Absaoui, est partie hier soir en détention provisoire après sa mise en examen dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants qui vise principalement ses deux frères, soupçonnés d'avoir organisé achat et vente de drogue depuis une maison appartenant à leur sœur. 70 kilos de résine de cannabis y ont été retrouvés par les enquêteurs.
7h35 sur Inter. Les critiques américaines sur l'offensive à Gaza n'empêchent pas le soutien à Israël.
Et c'est ce qu'a voulu rappeler Joe Biden hier soir. Notre engagement pour la sécurité d'Israël est inébranlable, assure le président des États-Unis, en évoquant aussi la menace d'une attaque importante de l'Iran contre l'État hébreu. Ces tensions dans toute la région, notamment au Liban, conduisent le dramaturge Wajdi Mouawad à renoncer à présenter sa nouvelle pièce de théâtre à Beyrouth. Le directeur du théâtre parisien de La Colline nous en parlait la semaine dernière sur Inter, mais les pressions sur l'équipe se sont depuis multipliées, Stéphane Capron.
C'est une ONG qui s'appelle Ministère des Affaires des détenus et ex-détenus qui a mené cette campagne, selon la directrice du théâtre Mono à Beyrouth. Cette ONG estime que les pièces de Wajdi Mouawad sont financées par, je cite, l'ennemi israélien et qu'elles font la promotion de la normalisation avec Israël. Elle a demandé au parquet militaire l'ouverture d'une information judiciaire contre Wajdi Mouawad. Les comédiens, tous Libanais, ont été harcelés sur leur téléphone. La direction du théâtre a donc pris la décision d'arrêter les répétitions pour ne pas leur faire prendre de risques. Elle dénonce les pressions inadmissibles et les menaces sérieuses faites au théâtre, aux artistes et aux techniciens. Cette pièce s'appelle « Journée de noces chez les Cro-Magnons ». C'est une pièce de jeunesse de Wajdi Mouawad, écrite à 23 ans. Elle raconte l'histoire d'une famille libanaise qui prépare le mariage de sa fille au rythme des bombardements incessants et des coupures de courant pendant la guerre civile. L'équipe va donc rentrer en France pour continuer à travailler. La première mondiale de la pièce est prévue en juin à Montpellier, au Printemps des Comédiens.
En Pologne, c'est un débat très attendu par les militantes féministes après des années de recul des droits des femmes. Le Parlement commence à examiner aujourd'hui une série de projets de loi légalisant l'avortement. Promesse de la coalition pro-européenne qui a repris cet automne le pouvoir aux nationalistes. Dans un pays où il est quasiment interdit aujourd'hui, l'IVG pourrait être autorisée jusqu'à 12 semaines de grossesse. Mais l'issue du vote est encore très incertaine.
En France, comment éviter une crise des opioïdes à l'américaine ?
Les autorités sanitaires surveille comme le lait sur le feu la surconsommation de médicaments antidouleurs, en particulier le tramadol, très addictif. Plus de 200 signalements en 2022, dont une centaine d'overdoses graves. Alors pour limiter le risque de dépendance, Solène Lehen, l'agence de sécurité du médicament demande aux industriels de réduire le nombre de comprimés par boîte.
Certaines boîtes de tramadol pouvaient contenir 30 comprimés, c'est trop pour traiter une douleur aiguë censée disparaître en quelques jours. Alors l'agence de sécurité du médicament a demandé ces dernières mois aux 26 industriels qui fabriquent le tramadol de réduire le nombre de comprimés par boîte. Le docteur Philippe Vella de l'agence du médicament.
D'avoir trop de comprimés alors qu'on n'en a pas besoin, c'est un risque de prolonger la prise de tramadol, voire d'augmenter les doses, d'avoir une situation de dépendance alors même que la douleur a diminué ou qu'il n'y a plus de douleur.
Plus de stock de tramadol dans nos boîtes à pharmacie, cet opioïde addictif à l'origine de nombreuses overdoses aux États-Unis, mais aussi désormais désormais en France 7 morts en 2022, 16 cas de convulsions et 116 patients gravement atteints. Les industriels ont joué le jeu. Après avoir modifié leur ligne de fabrication, ils commencent à livrer aux pharmacies des boîtes avec moins de comprimés.
Ce sont des boîtes de 10 à 15 comprimés ou gélules qui permettent de traiter un patient sur une courte durée de 3 à 4 jours par exemple.
C'est une nouvelle étape dans la lutte contre la dépendance au tramadol. L'agence de sécurité du médicament avait déjà réduit la possibilité de renouveler les ordonnances d'un an à 3 mois.
Solène Lehen pour cette information France Info. Le PSG est condamné à son tour à une remontada après son revers à domicile hier soir en Ligue des Champions de foot. Défaite 3-2 face au Barça en quart de finale aller. Mbappé est complètement passé à côté. Paris est donc en ballotage défavorable pour le match retour en terre catalane. Ce soir, c'est Ligue Europa. Marseille joue à Lisbonne contre le Benfica, coup d'envoi 21h. Si vous n'êtes pas foot, rendez-vous à la même heure sur Arte pour un OVNI télé. Une mini-série au croisement entre un film de Bruce Lee et un traité de Karl Marx. Ça s'appelle Machine, avec Margot Bansillon et Joël Starr dans les rôles principaux. Grand prix du dernier festival Série Mania, Alexandra Hakoun.
C'est une série au concept délirant, une histoire d'héroïne solitaire débarquant un beau matin dans une usine d'électroménager d'une petite ville de province.
Vous savez faire quoi ?
Monter et démonter un char Leclerc.
Un projet de délocalisation de l'usine va l'embarquer dans une révolte sociale aux côtés d'un ancien toxico fan de Karl Marx.
C'est l'existence sociale qui détermine la conscience.
Mais ce que personne ne sait, et surtout pas les casseurs de grève, c'est que Machine est une ancienne des forces spéciales rompue aux arts martiaux et au maniement des armes.
Vous êtes sûr de vouloir rester ? Ok.
Machine à bave, propos politiques, bonne dose d'humour. Le cocktail mis au point par Fred Grivois et Thomas Bideguin fonctionne à merveille.
Ça tombe bien, ce matin, il y a nagé.
Il y a quoi ?
Thomas Bideguin.
On s'est replongé dans les œuvres complètes de Karl Marx. On a essayé d'en faire une lecture un peu synthétique et de reprendre un peu un récit de ce que pourrait être une mondialisation sauvage et une lutte contre cette mondialisation sauvage. L'idée, c'était d'avoir des dialogues très sérieux à l'intérieur d'une série où, effectivement, on répond au code du genre. Il y a au moins une bagarre par épisode.
Des bagarres à la frénésie contagieuse où Margot Bansillon, sorte de Kill Bill tout en dreadlocks et tatouages, crève l'écran. Joey Starr est d'une profondeur bouleversante. Bref, une machine à l'audace rafraîchissante, parfaitement huilée.
J'aime bien quand tu parles comme ça.
Ouais. Voilà, Machine, série en 6 épisodes à découvrir ce soir sur Arte et déjà disponible ce matin sur arte.tv. Et après cette série très énervée, les conseils de scientifiques japonais pour calmer nos colères. Ces chercheurs de Nagoya ont mené une étude auprès de leurs étudiants. Il en ressort que le meilleur moyen de ne pas exploser quand quelque chose nous agace, eh bien, c'est d'écrire sur une feuille le fond de notre pensée, puis de la jeter à la poubelle ou de la passer au broyeur. Si vous faites la même chose, Simon, mais en gardant la feuille, ça ne marche pas.
Ah bon ?
Voilà. Là, par exemple,
je sais... Broyeur.
Aussi. Je sais que vous venez d'écrire qu'est-ce qu'il est long ce journal d'Alexis Morel. J'en peux plus. Eh ben, il faut jeter la feuille.
Eh ben, vous m'apporterez un broyeur. Voilà. Merci Alexis Morel. À suivre la politique et Elgoz, l'économie avec Alexandre Kounis et Boris Vallot, invité d'Alexandra Ben Saïd.